Bon, voilà un jour particulier, ce jour, un jour de la Pentecôte. Et bien sûr, vous vous doutez que ma prédication sera basée sur la Pentecôte. Voilà. Donc, voilà 50 jours. Voilà 50 jours que Pâques est passé. Voilà 50 jours aujourd'hui, plus ou moins, vous savez que le calendrier liturgique a été bousculé. Vous savez qu'en son temps, la Pâque juive, c'est là où Jésus a institué la Sainte Cène et nous étions vraiment juxtaposés sur les fêtes juives. Et pour des raisons, pour certaines raisons, tout a été chamboulé. Mais peu importe, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Oui, voilà 50 jours que notre Seigneur a été crucifié. Voilà 50 jours qu'il est ressuscité. Voilà 50 jours qu'il a été glorifié. Il a été glorifié, il est vivant, il est en nous. Il est dans notre cœur à chacun. Oui. Bon, alors, la grande question c'est, qu'est-ce que la Pentecôte ? Est-ce que vous avez une idée de ce que peut représenter la Pentecôte ? Moi, avec mes clients, je suis stupéfait quand je leur pose la question « Qu'est-ce que la Pentecôte ?» Bon, j'ai une petite plaisanterie que je vous dirai tout à l'heure. Mais bien souvent, les gens, « Ah ouais, la Pentecôte, c'est le lundi. Le lundi, on ne travaille pas. » Alors moi, j'ai envie d'instituer quelque chose. Je dis « Ben écoutez, vous savez ce qu'est la Pentecôte ? Ok, vous ne travaillez pas. Vous ne savez pas ce que c'est la Pentecôte ? Eh bien, vous allez travailler. Dans le monde aujourd'hui, dans cette laïcité, on a mis le Seigneur dehors dans beaucoup d'institutions. Ce n'est plus les vacances de Noël, c'est les vacances d'hiver, vous voyez, ce n'est plus... Et aujourd'hui, les gens, quand ça leur intéresse, les fêtes religieuses, on prend le jour de vacances, mais on ne sait pas la signification, ni le jeudi de l'Ascension. Voilà, moi, je me permets, dans mon salon de coiffure, de passer quelques messages. Alors vous vous rendez compte que la Pentecôte, oui, Michel nous l'expliquera après, dans le verset qu'elle va nous lire. Imaginez un peu, tous ces jours passés, l'ensemble des apôtres est dans cette chambre haute, pour ceux qui ont eu la chance d'aller en Israël. Cette chambre un petit peu austère. Mais qui a une teneur significativement spirituelle. Nous l'avons vécu, Michel et moi, il se passe quelque chose dans ce lieu. Mais ce n'est pas pour nous un lieu religieux, c'est un lieu spirituel. Il y a quelque chose qui se vit dans cette chambre haute. Alors bien sûr, il y a des choses qui ont été vécues symboliquement. Oui, il y a le lavement des pieds. Il y a aussi le dernier repas et l'institution de la Sainte Cène. Certains attendaient le retour de Jésus, attendaient le retour du Messie, dont l'expression aujourd'hui, on attend le Messie. Vous voyez, c'est devenu, on attend le Messie. Ouais, t'attends le Messie, oui. Et pour d'autres apôtres, la situation n'est pas claire. Non. Pourtant, Jésus, en son temps, a corroboré la promesse de son Père. Dans l'Ancien Testament, c'était la parole d'Ézéchiel, 37, verset 14. Ézéchiel, le prophète, dit « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. » Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Jésus est venu apporter une dimension spirituelle dans cet Ancien Testament et dans la Torah que Dieu a donnée à son peuple. Et Jésus a promis, dans Jean 14, verset 16-17, il dit « Et moi je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre afin qu'il reste pour toujours avec vous. » C'est l'Esprit de vérité. c'est l'Esprit de Jésus, parce que Jésus est la vérité, la vie et le chemin. Celui que les hommes, loin de Dieu, sont incapables d'accueillir, mais parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qu'ils n'en ont aucune notion. Pour vous. Par contre, il n'est pas un étranger, car il est auprès de vous, il demeurera en vous. Dans cette chambre haute, ils étaient tous réunis, tous ceux qui avaient suivi Jésus. Les hommes et les femmes, on peut imaginer que Marie-Madeleine était là aussi. Oui, Judas était déjà parti. Et on peut mesurer l'angoisse de ces apôtres. Le maître était parti. Ce maître qui était là pendant plusieurs années, ce maître qui les a conduits en Judée, ce maître qui a fait des miracles, qui a guéri les malades, qui a rendu la vue aux aveugles, le maître était parti. L'angoisse était là. Mais qu'allons-nous faire? Nous sommes tout seuls aujourd'hui. Le maître est parti. Ah, ils sont cachés depuis de longues journées dans cette chambre haute. On peut, nous aussi peut-être, se réveiller un matin et se dire, est-ce que j'ai rêvé ou pas? Est-ce qu'il m'est arrivé durant toutes ces journées, tous? Est-ce que j'ai pas rêvé? Non, les apôtres n'avaient pas rêvé. Jésus a vraiment été présent avec eux. Mais alors, dans cette chambre haute, qui allait frapper à la porte? Qui allait frapper à la porte de cette chambre haute? La peur. Serait-ce les Romains? Ce serait une cohorte de Romains? On chassait encore les chrétiens. Est-ce une délégation de nouveau du Sanhédrin? Peut-être Jésus en personne allait faire son apparition? Est-ce vraiment Jésus lui-même qui viendrait frapper à cette porte comme il l'a fait jadis? En montrant ses mains percées aux apôtres. Oh, la promesse est arrivée. Parce que c'était le temps de Dieu. C'était le temps de Dieu de venir bénir les apôtres. Et nous allons remettre ces situations dans le contexte et aller chercher la vérité de Dieu, la vérité de sa parole que Michel va nous partager. Nous allons prendre acte 2, versets 1 à 8. Michel, c'est à toi. Il y a peut-être le micro, je ne sais pas ce que vous en avez fait du micro. On va peut-être le donner à Michel. Oui, on va... Voilà, merci.
Alors, le don du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte arriva. Les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun des assistants. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans des langues différentes, chacun suivant les paroles que l'Esprit lui donnait d'exprimer. Or, parmi ceux qui séjournaient à ce moment-là dans Jérusalem, il y avait des Juifs pieux venus de tous les coins du monde. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et restèrent cloués sur place, tant ils étaient étonnés d'entendre les disciples parler chacun dans le dialecte de son pays. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles et, pleins d'admiration, ils s'écrièrent. Voyons, tous ces gens qui parlent ne viennent-ils pas de la Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre dialecte maternel ?
Toutes les personnes qui étaient là dans la chambre haute et différentes. Chacune avait une culture différente. Et ils se rendaient compte que dans ce que les apôtres avaient reçu, ils parlaient leur propre langue. Quelle surprise!
La première prédication chrétienne vient de là. Alors Pierre s'avança entouré des onze. D'une voix forte, il dit à la foule : Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui êtes de passage à Jérusalem, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes-là seraient ivres. Vous n'y pensez pas ? Il est à peine 9h du matin. Non, mais vous assistez à l'accomplissement de ce que le prophète Joël a prédit. Voici ce qui arriva dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prononceront les paroles que je leur inspirerai. Vos jeunes gens auront des visions et vos aînés recevront des révélations par des songes. Oui, certes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les plus humbles parmi mes serviteurs et mes servantes. Et ils parleront en mon nom. Je ferai apparaître des miracles là-haut dans le ciel et des signes extraordinaires ici-bas sur la terre. Sans feu, colonne de fumée. Le soleil s'obscurcira et la lune deviendra rouge sang. Ce seront les signes avant-coureurs du jour du Seigneur, de ce grand jour éclatant et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur en invoquant son nom.
Amen. Merci Michel. Tu peux le reprendre le micro pour tout à l'heure, mais ferme-le derrière s'il te plaît. Voilà, merci. C'était la promesse de notre Seigneur dans l'Acte des Apôtres. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Voilà la promesse de Dieu. La parole nous dit, mais vous le connaissez. Mes frères et sœurs, après la Sainte Cène, le Saint-Esprit est peut-être le sujet le plus diviseur au sein du corps du Christ. Ce Saint-Esprit, il est comme la Sainte Cène contesté et controversé. L'Église parle souvent, ou pas, du Saint-Esprit selon les doctrines. Certaines Églises ont cette dimension charismatique, alléluia. Mais comment être rempli du Saint-Esprit ? Marcher et vivre dans l'Esprit, recevoir ses dons et son réconfort. Il est possible de connaître toutes ces doctrines et de ne pas le connaître, lui, le Saint-Esprit, de passer à côté. Remarquons bien, on parle de Dieu, on parle du Père, on parle du Fils, mais le Saint-Esprit est l'enfant pauvre aujourd'hui de la Trinité. Recevoir le Saint-Esprit, le baptême ou l'effusion, parler en langue, recevoir le repos dans l'Esprit, est bien plus qu'une expérience ponctuelle. Le mot recevoir signifie s'approprier ce qui nous est donné. Nous savons que le Saint-Esprit est omniprésent sur cette terre et qu'il nous a jamais laissés et délaissés. Nous savons qu'il vit en nous et qu'il a fait de nous sa demeure, nos corps sont devenus son temple. Et la parole nous le donne dans Éphésiens 2 au verset 22, « En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation du Saint-Esprit. » Notre Père nous a donné ce fabuleux cadeau, c'est sa présence en nous. Le don du Saint-Esprit qui habite dans nos cœurs et pourtant... Et pourtant, souvent, nous agissons comme s'il n'était pas là. En vérité, le Saint-Esprit de notre Seigneur est la marque de sa bienveillance. Il est le sceau qu'il a mis sur le cœur de chaque chrétien, de chaque enfant. Le Saint-Esprit, notre ami, notre consolateur, notre enseignant, il est notre guide dans chaque jour, dans chaque pas de notre vie. Alors nous pouvons nous poser certaines questions. Quelle est aujourd'hui la connaissance que nous avons du Saint-Esprit? Quelle est aujourd'hui la nature de ma relation avec le Saint-Esprit? Quelles sont les marques, les preuves qui attestent que nous le connaissons? Comment nous expérimentons notre proximité, notre intimité avec lui? Comment? Comment aujourd'hui il nous transforme? Comment aujourd'hui il nous enseigne? Comment aujourd'hui il nous guérit? Comment aujourd'hui il est présent dans notre prière? Comment? Comment aujourd'hui le Saint-Esprit nous détourne du mal? Comment le Saint-Esprit nous donne soif et faim de sainteté? Comment il nous tourne vers le Seigneur et nous fait proclamer sa gloire et nous dire: Seigneur, viens, 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 Seigneur, viens dans ma vie. Je te remets ma vie ce matin, tu vois, elle t'appartient, elle est à toi. Seigneur, guide-moi dans ses pas, dans ma vie, aujourd'hui, Seigneur, je te remets tout. Comment le Saint-Esprit agit en nous aujourd'hui? Comment? Comment? Nous n'avons pas besoin d'une religion, non, non, nous n'avons pas besoin d'une religion. Nous ne sommes pas religieux. Christ à la croix n'a pas créé la religion, non. Il nous a fait enfants de Dieu. C'est pas ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'une religion. Frères et sœurs, nous avons besoin d'une révélation. Nous avons besoin d'une révélation. La révélation de qui est Jésus, de qui est le Père, de qui est le... Et de qui est le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit qui donne dans ton cœur l'amour de Dieu et qui le scelle. Il le répand dans ton cœur. Et en traduction grecque, c'est encore plus fort. La traduction grecque te parle de jaillir, de bouillonner dans ton cœur. Ça bouillonne. Parce que rien ne peut te séparer aujourd'hui de l'amour de Dieu. Rien. C'est l'Esprit qui parle à notre esprit et qui descend dans le cœur de chacun. Le Saint-Esprit confesse en nous que nous sommes enfants de Dieu, oui. Certains disent: ah oui, j'ai perçu le baptême dans l'Esprit, je ne parle pas en langue. Mais mon frère, ma sœur, si tu confesses que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, c'est l'Esprit de Dieu qui confesse en toi. Tu as l'Esprit de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Que ça devienne une réalité dans le cœur de chacun. Nous avons été adoptés dans la famille du Père. Parce que vous êtes fils de Dieu. C'est ce qu'il a envoyé dans le cœur de chacun. Et l'Esprit de Dieu en toi aujourd'hui crie: Abba, Père, Papa. C'est le Saint-Esprit en toi qui confesse et qui te fait crier: Abba, Père. La révélation de l'amour de Dieu n'est pas une religion. L'amour de Dieu, cette révélation de l'amour de Jésus est indispensable à notre vie. Car elle nous conduit, cette révélation nous conduit vers la conviction. Cette conviction nous conduit à la repentance. La repentance nous conduit à la transformation dans la foi et à la conversion de nos cœurs. Amen. Alors, le Saint-Esprit manifeste la présence de Christ en nous. et nous portons cette bonne odeur de Christ en nous. Le fruit de la semence, Galates 5. Et c'est le Saint-Esprit qui scelle les promesses de Dieu dans le cœur de chacun. C'est le Consolateur qui nous communique la paix, le shalom de Dieu, qui nous communique l'espérance contre toute espérance. Cette espérance du salut. C'est lui qui libère ce repos dans nos âmes et dans nos corps. Il transforme le Logos. Le Logos qui est la parole de Dieu incarnée. En Réma, la parole révélée en puissance. Quand l'onction du Saint-Esprit touche la substance, c'est-à-dire la parole, celle-ci devient puissance. Et nos prières deviennent des armes redoutables contre l'ennemi. Et alors arrivent les miracles. Et arrivent les prodiges. Arrive la guérison. Amen. Amen. Réalisons combien, mes frères et sœurs, le rôle du Saint-Esprit en nous est important. Il est indispensable. Parfois, nous pouvons nous sentir morts, nous pouvons nous sentir affaiblis spirituellement. Oui. Nous pouvons nous sentir insensibles, diminués. Mais la réalité est qu'il y a une force vivante en chacun de nous qui œuvre continuellement en nous. Oui, c'est une réalité. L'Esprit Saint en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est l'épître de Jean, 1 Jean 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors comment nous vivons cette Pentecôte? Comment nous vivons chacun notre vie de chrétien? Comment? Est-ce que Jésus nous a dit que lors de notre conversion, lors de notre baptême, est-ce qu'il nous a dit que ce serait facile? Est-ce qu'il nous a dit que chaque jour serait facile? Il nous a dit que nous aurons des combats, mais qu'avec lui, nous aurons la victoire. Oui. Alors moi, je vous propose une autre définition de la Pentecôte. Je vous propose une allégorie. Est-ce que des personnes ont fait du vélo parmi vous? Peut-être vous en faites encore. Alors moi, vous voyez, je vous propose une autre version de la Pentecôte. Et dans la vie de chaque chrétien, eh ben, dans la Pentecôte, il y a la pente, il y a la côte. Vous voyez? Il y a des moments où c'est facile, il y a des moments où c'est plus difficile. Il y a des moments où on descend, des moments où on monte. Il y a la pente et il y a la côte. Il y a cette fluctuance qui est en nous. On n'est pas toujours en ligne droite. On a quelquefois le vent qui nous arrive, blam. On a quelquefois cette descente, cette montée. Quelquefois on arrive dans notre église, vous voyez, quelquefois il y a les pelotons. Vous voyez les pelotons? Les pelotons de coureurs. Eh bien, vous avez un peloton et vous avez un décalage. Eh bien, c'est parce que le gars qui est derrière, il se met à l'abri. Il se met à l'abri du vent. C'est aussi l'image de l'Église. De se mettre à l'abri dans la bergerie. Et quelquefois, il y a quelqu'un qui est devant. Il est tout seul. Il a quitté le troupeau. Et puis, il s'en prend plein la figure. Vous voyez? Il y a la pente et il y a la côte. La pente, c'est peut-être un choix. La pente peut peut-être définir notre faiblesse, peut-être notre incrédulité. Vous savez, quelquefois ça paraît facile quand on est dans une pente. est-ce qu'on a des freins? On est facilement dans le fossé, vous savez. Oui, on peut avoir froid, parce que dans la descente, on peut avoir froid. Dans la descente, on représente peut-être une zone de confort, de facilité. Mais spirituellement, ça peut être une descente aux enfers. Ça peut être la perdition. Ça peut être nous priver de la connexion divine. Et puis il y a cette côte avec ce que le Saint-Esprit peut nous donner, le bon braquet, la bonne vitesse, là où on peut pédaler, là où on peut franchir les étapes et les difficultés. C'est ce chemin de sanctification qui n'est jamais sans effort. Il y a toujours un prix à payer. C'est une zone d'effort, de combat spirituel, mais qui nous amène à la bénédiction de Dieu. Mes frères et sœurs, nous vivons tous ce combat. Nous vivons tous ce combat intérieur. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Nous avons tous ce combat intérieur entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Tous, tous. Une guerre intérieure fait rage en nous. Et elle est plus ou moins violente en chacun. Chaque chrétien peut déclarer, je connais mon Père, je suis son enfant. J'ai donné ma vie à Jésus. Donc je suis converti. Je suis rendu juste à ses yeux et j'ai un accès libre auprès de lui. Et pourtant, il n'en demeure pas moins qu'une guerre a lieu en chacun de nous, qui est plus ou moins forte, qui est plus ou moins violente. Nous combattons encore contre les pensées venant de la chair et les tentations, et cette guerre semble ne jamais finir. Cette guerre est celle de tous les chrétiens, nés de nouveau. Nous avons souvent des pensées nocives qui ne sont pas dignes de Christ et qui nous polluent. Tout le monde connaît ça, moi-même je connais ça, je suis attaqué. Oui, ne faisons pas l'autruche. C'est une réalité. Nous sommes tentés de regarder, de dire, d'écouter des choses inappropriées en tant que chrétiens. Nous sommes toujours tentés. Ces pensées qui nous salissent et nous rendent indignes, nous, enfants de Dieu, le monde nous agresse sans cesse. C'est une réalité. Ces batailles peuvent devenir intenses et fréquentes. Paul a exprimé ses attaques. Paul les a vécues. Il ne faisait pas le bien qu'il voulait, il faisait le mal qu'il ne voulait pas. Paul a exprimé. Et Dieu sait si Paul était un combattant et un guerrier. Misérable que je suis, nous dit, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de chair? Notre guerre intérieure n'est pas différente de celle que vivent d'autres chrétiens. Donc nous devons refuser le mensonge qui nous fait croire que nous sommes des enfants de Dieu non sanctifiés. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que vous savez, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et si Dieu est avec toi, mon frère, ma sœur, qui sera contre toi? Car le Saint-Esprit est en nous. Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, que ça devienne une réalité dans le cœur de chacun. Et l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse. Oui, c'est ce que Dieu a dit à Paul, avec l'écharde que Paul avait dans son corps. Va avec la force que tu as. Et réalisons combien vivre par le Saint-Esprit est si important. Si je crois les paroles du Seigneur et que je place ma confiance en Jésus-Christ, alors peu importe comment je me sens, comment je me juge moi-même, ou comment je me sens condamné, le Saint-Esprit insuffle toujours la vie en moi. Toujours. Dieu m'aime toujours et son Esprit est toujours à l'œuvre en moi. Ce combat est le nôtre. Le Saint-Esprit nous permet d'être plus que vainqueurs. dans cette fournaise qui est au milieu de nous, quelquefois pour nous éprouver, pour nous rendre encore plus forts. C'est ce que nous avons partagé, Michel et moi, en sortant du château hier soir, n'est-ce pas ? Alors soyez donc saints, comme je suis saint. Nous avons autour de nous des personnes qui veulent cette sainteté. Nous voyons des gens qui sont religieux, qui vont jusqu'à se flageller, qui vont jusqu'à faire de chemin de croix à genoux. On en voit autour de nous. Quel objectif ? Pour certains, quel fardeau ? Cette volonté est honorable. Mais la réalité, c'est que nous sommes imparfaits, nous sommes en chemin et nous sommes tous en travaux. Oui. Nous serons parfaits, sans péché, le jour où nous serons devant notre Seigneur, dans le royaume, à la place qu'il a préparée d'avance pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous avons ce combat à vivre chaque jour entre la chair qui est en nous et l'Esprit de Jésus qui est en nous. Nous vivons tous aujourd'hui ce combat spirituel. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Alors qui va gagner ? Qui va gagner ? C'est la parole qui est révélée, qui nous permet d'être vainqueurs et d'avoir ce discernement. Mais aujourd'hui, c'est le thème de ma prédication ce matin. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans l'Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. Par lequel vous avez été marqués d'un sceau, comme propriété de Dieu pour le jour de la délivrance finale. Vous l'avez reçu comme un gage de votre libération complète et définitive, mes frères et sœurs. N'attristons pas l'esprit. Il y a pire encore, c'est de l'éteindre. Mais n'attristons pas l'esprit. Pour le jour de la parousie, c'est-à-dire le jour de la venue de notre Seigneur, il est possible de façon volontaire ou involontaire d'être soumis à la tentation. Peut-être conscient, inconsciemment. Peut-être nous attristons l'esprit. Peut-être. Nous quittons ainsi la couverture de notre papa. Nous ne recevons pas les bénédictions que nous devrions avoir. Nous savons notre destination. Mais nous prenons des chemins de traverse au sujet de notre destinée. Voulons-nous que notre vie soit dirigée pleinement par le Saint-Esprit ? Amen. Je ne vous entends pas. Amen. La parole nous dit, Romains 12, verset 11, « Soyons bouillants !» Soyons bouillants, nous dit l'Esprit Saint. Soyons bouillants, soyons remplis du Saint-Esprit. Lâchons prise. Laissons-nous transformer. Nous avons ce matin, et seulement dans l'humilité, l'opportunité de donner et d'abandonner ce qui attriste le Saint-Esprit en nous. Vous allez me dire, ah oui, mais moi je suis un vieux chrétien. J'ai déjà fait des séminaires, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela, j'ai déjà fait cela. Mais quelque part, on se rend compte que de temps en temps, il y a des choses qui coincent. Alors ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse s'éprouver nous-mêmes. Comme nous dit Paul aux Corinthiens. C'est pourquoi, selon ce que vous dit l'Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix ce matin, n'endurcissez pas vos cœurs. Que le Saint-Esprit nous permette de regarder avec réalité dans les profondeurs de nous-mêmes et de nous secourir ce matin dans ces temps qui sont difficiles. Alors, on peut se poser des questions chacun, chacune. Aujourd'hui, je suis chrétien depuis des années. Mais aujourd'hui, quelle est la cohérence de ma foi? Quelle est la cohérence de ma foi? Ai-je l'impression que Dieu ne me répond pas? Ai-je un esprit d'égarement? Suis-je troublé par moments? J'ai peut-être une mauvaise fréquence avec le Saint-Esprit, c'est un peu brouillé. Il y a peut-être des parasites. Ai-je fait des allégeances, des compromis avec l'ennemi dans certains domaines de ma vie? Quelles sont les brèches que j'ai ouvertes? Quels sont encore aujourd'hui les points d'appui que Satan, que le malin peut avoir sur moi? Quels sont mes combats? Les combats dans mes actes? Je ne suis pas parfait. J'ai peut-être des addictions. J'ai peut-être encore le tabac avec lequel je me bats depuis des années. J'ai fait des promesses au Seigneur depuis des temps et je continue de fumer. J'ai peut-être des combats dans mes pensées. La jalousie. La colère. L'inimitié. J'ai peut-être des combats dans mon corps aujourd'hui. Je malmène peut-être mon corps. Je lui fais mal. Pourtant, je suis le temple de Dieu. Mon corps est sacré. J'ai peut-être encore des combats avec mes paroles. Moi le premier. Je ne suis pas parfait. Il y a peut-être encore des non-pardons. Des non-pardons qui ne vous sont pas encore libérés. Vous avez peut-être encore des racines d'amertume dans votre cœur. Ouais. Qui ne vous ont pas libérés et qui vous emprisonnent. Et qui vous privent de la pleine puissance du Saint-Esprit. Vous êtes peut-être encore habité par le mensonge. Ah, le mensonge. Et la critique, c'est facile de critiquer. Nous demandons peut-être au Seigneur qui ouvre les écluses des cieux. Oui, Zacharie ou Malachie. Enfin, de nous bénir, de nous guérir. Oui, mais sommes-nous fidèles aujourd'hui dans notre dîme et dans les offrandes? Sommes-nous cohérents, frères et sœurs? Sommes-nous cohérents? Que dois-je abandonner aujourd'hui? Que dois-je abandonner aujourd'hui? Je le répète, vous avez fait des séminaires, vous avez fait tout ça. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a encore en vous? Quelles sont ces racines qu'il y a encore en vous? Quelles sont ces racines qui sont encore en vous? Qu'est-ce que l'on doit aujourd'hui se libérer pour avoir pleinement le Saint-Esprit, avoir cette foi qui est triomphante en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui nous tire encore vers l'arrière et qui nous empêche d'avancer? La parole nous dit, purifions nos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit. Par l'Esprit. Michel, si tu veux bien venir. Et Michel va nous parler de la vie, le secret d'une vie de plénitude. Et si vous voulez suivre, c'est dans Éphésiens 5 au verset 17.
Alors, le secret d'une vie de plénitude. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis, tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à longs traits à la coupe de l'Esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Comment ? Que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, qu'elle s'exprime par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés. De tout votre être, chantez et jouez pour Dieu. Et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui. où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par respect pour le Christ, prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres.
Amen. Amen. Ce matin, en arrivant, je parlais avec Robert et il me dit « Je me suis fait arracher une dent ». Et en plaisantant, je lui dis « Tu avais peut-être une dent contre quelqu'un ». Qui sait ? Qui sait ? Qui sait ? Hier soir, au Château Blanc de Thumry et nous avons entendu quelque chose. Et Michel, moi, je suis arrivé que du soir. Mais ça avait été partagé du vendredi soir. Il y avait une parole prophétique qui avait été donnée. Et Michel, quand je t'ai partagé ça tout à l'heure, tu m'as dit, mais écoute, ça correspond vraiment, ce que nous allons vivre là, à la parole prophétique qui a été donnée au château. Cette parole qui était dit, qui parlait d'incinération, qui parlait de brûler les détritus, les déchets. Nous en aurons l'occasion. Nous en aurons l'occasion. Moi, ce que je vous propose là ce matin, dans la mesure où vous êtes d'accord, je vous propose de prendre, si vous voulez bien, chacun un papier. J'ai que 3 stylos. Et peut-être d'écrire ce que le Seigneur va vous révéler. Dire, tu vois, Seigneur, moi j'ai encore un problème avec la jalousie. Moi, tu vois, j'ai encore un problème d'amertume dans mon cœur. Moi, tu vois, j'ai peut-être un problème de non-pardon. J'ai peut-être un problème dans mon couple. J'ai peut-être un problème d'incrédulité. Seigneur, tu vois ce qui me dérange, ce qui me plombe aujourd'hui. Seigneur, et tu vois, ce matin, c'est le matin de la Pentecôte et j'ai envie aujourd'hui de lâcher prise. J'ai envie aujourd'hui de me libérer. Et j'ai envie aussi d'incinérer tout ce qui pèse encore sur mon cœur, tout ce qui m'empêche d'avancer. Alors je vous propose de prendre un petit papier, de pouvoir noter. Ne mettez pas votre nom. Ce que je vous promets, tout à l'heure, je vais faire un barbecue. Et après le barbecue, je vais ficeler et je mettrai les papiers que vous avez mis et je les placerai sur mon barbecue pour qu'ils soient incinérés. Voilà. Dieu regarde ce matin votre cœur. J'ai mis aussi un ravier avec du sel. Le sel qui représente la purification. C'est un symbole. Si vous voulez mettre un petit papier ce matin dans cette poubelle, soyez libre. C'est un symbole. Si vous voulez prendre du sel qui purifie, c'est la cacheroute. C'est ce que les Juifs aujourd'hui rendent pur et cachère. Vous voyez, c'est aussi dans l'ancien temps ce qu'on rendait pur avec le sel. Si vous avez envie de prendre du sel ce matin, et si vous n'avez envie que de prendre du sel, soyez libre, soyez libre. Écoutez le Seigneur, ce qu'il va vous parler. Et si vraiment à l'intérieur de vous-même, il y a encore quelque chose qui vous pèse, c'est le moment, ce matin, de vous délivrer. Nous allons prier ensuite pour recevoir pleinement le Saint-Esprit. Nous allons reprendre un chant, j'en ai parlé tout à l'heure. Et nous voulons ce soir, nous voulons là, maintenant, pouvoir voir et la puissance du Seigneur. Amen. 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 Tu as vu nos combats, tu as vu ce qui nous retient en arrière. Seigneur, tu as vu nos cœurs et tu as vu la dimension d'humilité qui nous a motivés à écrire, tu vois, sur ce petit morceau de papier, ce qui nous retient en arrière, peut-être ce qui nous a blessés, peut-être. Tu vois, tous nos combats aujourd'hui qu'on aimerait bien en être libérés. Alors Seigneur, tu vois tout ce qui est dans cette poubelle, on va le jeter, tu vas le prendre à jamais et nous n'allons jamais plus y retourner parce que Seigneur, tu nous libères. Seigneur, nous accueillons la plénitude là de ton Saint-Esprit. Et nous considérons là ce matin que plus rien ne fait obstacle à l'effusion là ce matin de ton Saint-Esprit. Nous accueillons ton Saint-Esprit là maintenant, dans la plénitude que tu veux donner à tes enfants. Nous recevons les dons de ton Saint-Esprit, les meilleurs dons que tu veux donner à chacun pour édifier ton corps, ton Église, Seigneur. Nous recevons la plénitude de ton Saint-Esprit des dons. Nous recevons la plénitude de ton amour, de ta paix, de ta joie. Nous recevons, Seigneur, ton Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Viens habiter en nous, dans la plénitude de notre être. Viens visiter notre esprit, notre âme, notre corps, et délivre-nous du mal. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Sur votre frère, sur votre sœur, bénissez-le dans le nom de Jésus. Bénissez-vous. Bénissez-vous dans le nom de Jésus. Bénissez-vous. Bénissez-vous dans le nom de Jésus. Voilà. Soyez bénis. Que l'Esprit du Dieu vivant soit dans le cœur de chacun.